On enchaîne donc avec notre nouvelle étape du Duga Tour des clubs.
RMC Team Duga, le Duga Tour des clubs, Nantes.
Vous savez, cette émission que j'appelle Pastis Cacabette.
C'est un ancien canari qui parle.
Mais ça, tu peux pas mettre pression sur lui.
Personne. Je suis un peu surpris que vous parlez que du problème entre Jaïd et moi.
C'était un jeu difficile qu'un quelques millions qui sont sur la touche. Hein.
Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi.
Ça rend plus sûr de nous tous quand on a un bon sexe. Hein.
Alors là, je pense que Nantes, c'est un des clubs pour faire la prod les plus faciles. Parce que là, il y a les clients, Valdemar Kita, Vaïdani Lodzik. Donc, nouvelle étape du Duga Tour des clubs qui s'arrête donc à Nantes après Marseille hier. Alors, je vous rappelle le principe. Tous les jours, Duga fait le bilan de la saison d'un club de Ligue 1, qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Et on se projette sur la saison prochaine avec, pour compléter les points de vue de la Dream Team, hein, parce que Eric, on a hâte d'avoir ton avis aussi. Nous avons avec
Je crois que j'ai vu deux matchs à Nantes cette année.
Ah bah, c'est bien.
C'est, je peux pas tout faire, moi, la Coupe d'Europe, le championnat anglais.
C'est autant que Franck sur toute la saison, donc c'est pas mal.
Je crois que les deux matchs que j'ai vus de Nantes, c'est contre l'OM.
On salue Franck Leboeuf.
On l'embrasse très fort.
Alors, pour en parler, en plus de vous, messieurs, et de vous, supporters nantais au 32-16, on vous attend nombreux. Nous sommes avec Jean-Marcel Boudard de Ouest France. Salut Jean-Marcel. Bonsoir.
Salut Jean-Marcel.
Donc.
Jean-Marcel, quel âge as-tu?
Toujours intéressant de savoir le prénom.
En fonction du prénom.
Ouais. Jean-Marcel, tu parles à un Jean-Louis.
Oui. Bah, des Jean-Louis de mon âge, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Non. Ah bah oui.
Non, il n'y en a plus même. Je cherche pas, il n'y en a plus.
Non, il n'y en a plus. Ah, oui. Ouais. Mais bon, bref. Alors, on va parler du FC Nantes. 12e cette année. Belle remontée avec l'arrivée de Vaïd. Hein. Duga, tu as toujours cru en Vaïd depuis des mois et des mois. Arrivé au mois d'octobre, alors que Nantes était avant-dernier à ce moment-là. Alors déjà sur la saison nantaise, Duga, la saison qui s'est écoulée.
Comment elle est difficile à juger, bien sûr, qu'elle est difficile à juger cette saison nantaise avec le drame de Salah. Forcément, ça a compliqué les choses et la situation. Donc, je trouve que malgré tout, ça reste une saison plutôt réussie. Voilà. Tu sais, je suis assez partagé dans ce club parce qu'à la tête de ce club, il y a deux personnes qui, à mon avis, ont une certaine compétence, mais ont juste un boulard incommensurable.
Donc, Vaïdani Lodzik
et Valdemar Kita, ils ont tout.
Et comme tu nous disais tout à l'heure en aparté, ça va très bien avec les Nantais, du coup, c'est pas ça que t'as dit?
Non, j'ai pas dit ça, mais tu pourras le préciser après si tu veux. Non, mais je pense sincèrement que le président Kita, il a mis déjà beaucoup d'argent, donc déjà bravo à lui, et je pense que les supporters nantais peuvent le remercier parce qu'il a mis énormément d'argent. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'il doit avoir une certaine compétence. Le problème, c'est que sa modestie est proche du zéro, qu'il a tout vu, qu'il a tout connu et qu'il sait tout, et qu'il a pris un entraîneur qui sait à peu près la même chose que lui. Donc, à mon avis, ça complique beaucoup les choses. Je pense que Nantes a la possibilité de travailler avec ce duo, parce que je pense que chacun est capable d'amener une certaine force, un certain caractère, parce que c'est important d'avoir du caractère. Et le président Kita, il s'est fait souvent chahuter, il a mis son argent, il a su y répondre, il a montré une certaine force, il n'a pas tout réussi, mais je trouve qu'il montre une certaine force. Je trouve qu'il n'est pas malléable, malgré tout les résultats sont assez positifs, et la qualité du jeu n'est pas si mauvaise que ça. C'est compliqué pour les entraîneurs de travailler avec lui, mais en changeant assez souvent d'entraîneur, et bien écoute, les résultats sont plutôt là. Nantes est loin de la relégation, ils arrivent à assurer leur maintien assez facilement, entre guillemets. Après, t'as le problème de Vaïdani Lodzik. Combien de temps ça va durer? Moi, je pensais pas que ça durerait 6 mois. Là, on en est à 1 an. Pour l'instant, ça fonctionne. S'ils arrivent à travailler ensemble, ce que je crois impossible, il y a possibilité à faire quelque chose d'intéressant avec ce club du FC Nantes. Alors, pour moi, c'est impossible. L'ego est tellement surdimensionné. Ils ont un tel boulard tous les deux que ça peut pas fonctionner.
Jean-Marcel, on a vu quand même tout au long de la saison que au moment des mercato, enfin du mercato d'hiver, il y avait déjà des tensions. Comment ça va se passer la cohabitation entre les deux à cette période de mercato?
Elle est compliquée puisqu'en plus effectivement, il y a eu le mercato d'hiver où c'est même plus des dissensions, il y a une vraie fracture entre les deux. Il y avait déjà de la défiance au moment où Vaïd s'est engagé pour le club, où chacun en tous les cas définit son périmètre, bien borduré son terrain. Et c'est vrai que ça a un peu volé en éclat, et ça a volé en éclat avec le mercato d'hiver. Donc aujourd'hui, la fin de saison sportive a permis en tous les cas aux deux de cohabiter. Donc on est un peu comme c'est la glasnost, la guerre froide.
Mais je pense sincèrement, je pense qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et je pense que c'est ça qui peut faire
Mais c'est vrai que Kita a besoin d'un entraîneur fort avec Conte Sao, ça s'est bien passé aussi.
Mais Kita, il trouve Ali Lodzik qui convient très bien malgré tout, qui fait le show, qui expose son club, qui a malgré tout des résultats. C'est un bon entraîneur, quoi qu'on en dise. Ali Lodzik, moi je l'aime pas, mais c'est un bon entraîneur. Il a des résultats. Ça fonctionne avec ses joueurs. Kita, il a besoin d'un mec comme ça avec qui il est en conflit, avec qui il est en guéguerre. Moi, sincèrement, je pense que qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente parce que ça convient aux deux.
Ils n'ont pas le choix de, ils n'ont pas le choix que de cohabiter puisque Vajdašić ne souhaite pas quitter le club.
Ben voilà, en plus.
Et Vadim Markita ne souhaite pas faire un chèque de plus de 2,5 millions d'euros.
Ben voilà. Donc,
c'est encore un an de contrat, Vaïd. C'est
donc
un
ça va
contrat.
Ça, oui, va
ça s'appelle un mariage de réseau. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Alors, il y a d'autres dossiers à Nantes qui vont être intéressants à suivre, peut-être pour l'évolution du club pour la saison prochaine. C'est le stade et donc le centre d'entraînement. Le stade, visiblement, c'est toujours aussi chaud entre Vadim Markita et la mairie.
Alors, le stade, c'est terminé. Aujourd'hui, la mairie a dit a sifflé la fin de la récréation. Il y avait une forte opposition sur le stade. C'était le projet de Vadim Markita. Il a cru toucher au but. Et au moment où il touchait au but, il y a une enquête du parquet national financier sur ses affaires fiscales. Ce qui fait que dans un contexte de turbulence déjà où il était chahuté par les supporters, à un an des municipales, la mairie a dit stop, on attend le résultat.
Ouais.
Donc, il a très mal vécu.
Touché parce qu'au niveau des supporters, ça gueulait. Hein.
Ça a consolidé, enfin, ça a accentué le fossé qu'il pouvait y avoir entre les supporters et la direction. Et c'est vrai que ça a été en plus, ça a créé un point de crispation là pour l'ensemble de la saison. Donc le stade c'est terminé, sauf qu'ils vont être obligés de se revoir puisque il va falloir renégocier le contrat de location de la Beaugeoire qui aujourd'hui le FC Nantes ne paye que 140 000 euros par an.
Ah ouais, c'est cadeau ça.
Voilà, c'est cadeau. Sauf que Toulouse s'est passé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas on a un stade moderne mais qui a pas été rénové comme les stades de l'OM, de Bordeaux, de Nice. Et donc on n'aura pas un loyer à 5 millions d'euros, mais on est un peu dans le contexte de Toulouse qui a relevé son loyer à 2 millions et demi d'euros. Sauf que Vadim Markita va certainement pas vouloir payer 2 millions d'euros de location à la ville, alors que lui voulait pouvoir disposer de son stade et pouvoir avoir plus de loges, notamment pour augmenter les revenus. Et il y a un autre point de crispation sur lequel ils vont pouvoir discuter, c'est que la Jonelière, qui est le centre de formation, qui est un peu l'image du FC Nantes, centre d'entraînement, est menacée de déclassement par la FFF, puisqu'il y a des nouvelles normes, notamment il faut un certain nombre de terrains, un certain nombre de vestiaires aujourd'hui. Il faut séparer les pros du centre. Et il se trouve que la Jonelière est un site classé, Natura 2000, on peut pas y faire ce qu'on veut. Donc ça faisait 2 ans qu'il y avait un peu une épée de Damoclès. Aujourd'hui, il faudra prendre une décision, soit le centre part, soit on déménage que les féminines, l'école de foot. Mais en tous les cas, il faudra prendre une décision d'urgence, puisqu'ils ont un an pour faire un projet de secours.
Oui, donc il y a des décisions importantes, en plus du quotidien, des mercato et des championnats.
Hein. Dont la ville,
parler avec Madame le maire.
C'est pas la gestion d'un club.
Oui, mais nous, on voit des virages importants dans
l'évaluation. Oui, nous, on voit la vitrine. Pour moi, la vitrine, c'est toujours l'équipe première. Et après, il y a toute la gestion à côté. Tu sais, quand tu regardes un petit peu le budget de ce club-là, comment ils travaillent ces dernières années, qu'est-ce qu'ils peuvent aspirer de plus que ce qu'ils ont fait cette année, c'est-à-dire finir au milieu de tableau.
C'est le 9e budget, hein,
12e, ils ont fini, c'est ça?
Et ils ont fini 12e.
Ils ont fini 12e, c'est-à-dire tu vises le milieu de tableau, peut-être non, tu espères finir dans les 6 avec les deux places derrière qui sont si Paris gagne tout, tu te fais une Ligue Europa. Et donc, est-ce que le salut de ce club-là, pour passer le cas...
Je te coupe parce que on peut écouter Olivier Giroud qui vient de sortir de l'Elysée après la remise de la Légion d'honneur. On l'écoute en direct dans Team Duga sur RMC.
Alors, ça s'appelle la Légion d'honneur. Non, cette récompense est assez extraordinaire, pour être honnête avec vous. C'est une immense fierté, un privilège. Et donc, voilà, c'était une journée particulière pour l'équipe, pour le staff. Et on est très reconnaissant, très fiers d'avoir réalisé une belle Coupe du Monde, d'avoir amené la Coupe à la maison. Et puis, bien sûr, d'être déco de cette distinction.
Forcément, ça fait remonter les souvenirs. C'était il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, d'en venir ici. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez tout chanté la Marseillaise, vous sont fait rendre l'Elysée, des beaux moments,
j'imagine. Ouais. Non, dès qu'on était sur les marches, je me remémorais les bons moments, notamment avec Lucas Hernandez. Et petite anecdote. Et donc, c'est sûr que voilà, ça nous a ramené plein. Ça nous a rappelé énormément de souvenirs et surtout le discours du président a été très très touchant dans le sens où il a oublié personne et il a
fait. C'est Antoine Griezmann derrière. Merci.
Tu peux y aller. Le bus t'attend.
Et il a fait.
Bon voilà donc pour la réaction d'Olivier Giroud donc avec Antoine Griezmann qui s'est initié. Alors on peut écouter Paul Pogba. Autre réaction, les Bleus qui ont reçu la Légion d'honneur aujourd'hui des mains d'Emmanuel Macron.
Gardez bien précieusement à la maison celle-là.
Voilà. Comment il a vécu les mots du président? Le sens du sacrifice dont
il a parlé. C'est vrai, en fait il a parlé de chaque joueur et
il a parlé des, voilà, de, surtout de la personnalité aussi des joueurs. Voilà. Il suit aussi, il est, c'est, je sais que c'est un fan de foot, il suit aussi les joueurs. Il a parlé, voilà, il sait que les joueurs, on a fait des sacrifices. Et maintenant, pour gagner aussi un mondial, il faut faire des sacrifices. Et on l'a fait vraiment avec plaisir.
Allez, on va tenter une dernière réaction avec Antoine Griezmann, donc, qui est venu pour parler sérieusement derrière. Ça va peut-être dire où il va jouer l'année prochaine. Non, non, on fait des souvenirs de la Coupe du Monde.
Beaucoup de pression, voilà, il faisait assez chaud dans la salle. Et voilà, je tiens à remercier le président parce qu'il a eu les mains pour chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a pris son temps pour nous, donc voilà, le remercier.
Qu'est-ce qu'il a dit sur toi ?
Voilà, donc Antoine Griezmann qui continue de parler de cette remise de la décoration. Alors on écoute tout, hein, parce que s'il annonce son futur club, évidemment,
passionnant.
On vous le dira. Tu crois que t'étais passionnant il y a 20 ans quand on t'a interviewé après la remise de la Légion d'honneur?
Alors c'était aussi passionnant que nous en 98, ça te convient comme ça?
Bon, en tout cas, voilà, il y a eu tout un discours d'Emmanuel Macron que vous avez pu entendre dans les infos tout à l'heure. On revient à Nantes dans notre Duga Tour des clubs, donc dans Team Duga. Est-ce que tu te rappelles ce que t'as
dit? Oui, non, parce que tout à l'heure, quand on parlait de Nice, le FC Nantes, c'est vraiment une marque, une école particulière, un club particulier aussi dans l'histoire du foot français. Donc, alors je sais pas si ce club a la cote vers d'éventuels investisseurs, mais pour qu'il passe un cran au-dessus, il faudrait que quelqu'un vienne racheter
le
club.
Il est en vente, a priori.
Non, il est.
Ouais, s'il y a Fada, qui vient, qui met 100 millions,
la porte est pas fermée.
C'est quoi la fortune de Kita?
La fortune, elle vient de lunettes à l'origine et puis de la chirurgie plastique.
Bronzage aussi, non?
Pardon?
Bronzage aussi, non? Il n'a pas de... Non. Je crois qu'il a des points de soleil, excuse-moi.
Non. Par contre, justement, il voulait t'en parler, il a un produit pour toi très intéressant. Ouais.
La chirurgie plastique.
Voilà, d'accord. C'est pas un produit alors, c'est...
Non. Non, mais c'est...
Il
pourrait améliorer ton quotidien.
Voilà, il pourrait améliorer ton quotidien.
On a tous l'intention d'améliorer notre quotidien, c'est pas vrai à personne.
C'est pour ça qu'il avait fortune, hein, parce qu'il y avait un marché.
Il est très riche. C'est quoi sa fortune en parlant milliards? Il a non?
Oui, il a des moyens, il a des gros moyens, ouais.
D'accord.
Ouais.
Alors justement, comment le club peut-il évoluer? Est-ce que avec justement Wendy Marquita, selon toi, il peut aller encore plus haut? Peut-être en revoyant la façon de faire, en s'entourant différemment, en ayant un peu plus le nez creux sur le mercato.
Aujourd'hui, ce qui est réclamé, notamment quand Eric parlait de l'équipe première qui est la vitrine, il y a aussi la formation à Nantes qui est essentielle pour amener des joueurs en équipe première et qui est essentielle pour faire des bascules derrière sur le mercato et de ramener de l'argent.
Comment il va ce centre de formation justement? Il y a des résultats?
Alors, il y a eu un creux de génération entre la génération 93-94 qui est la génération des Rongier, Touré, Kofi Didi, qui est au Torino, qui réussit, qui va rester là-bas, et qui a beaucoup alimenté l'équipe première. Il y a un creux générationnel, mais qui a permis aussi de rapporter quelques ventes comme Harit à Schalke. Et aujourd'hui, justement, ça bloque aussi avec Vaïd notamment et la formation. Il y a trois jeunes qui poussent, notamment le petit Basila qui joue en U20 sur le côté droit, qui est devant la quatrième titularisation aujourd'hui. Et voilà, ça fait débat parce qu'ils n'arrivent pas assez vite aujourd'hui en équipe première, parce qu'aussi les coachs sont dans l'instabilité et que bon, le résultat immédiat l'emporte sur plein de choses. Et hésite.
Et pardon, excusez-moi. Et justement, est-ce que tant que le président Kita est là, ça passe pas par un entraîneur qui fait plus rapidement jouer les jeunes et qui s'appuie un peu là-dessus. Un entraîneur connu et reconnu pour ça. On parlerait par exemple de Claude Puel, de partout où il est passé, il a fait monter très rapidement des jeunes, il les a fait progresser. Est-ce que c'est pas ça le salut du FC Nantes?
Il est capable de faire ça, il fait jouer des jeunes.
C'est pas
les aptes d'après ce que j'ai vu. Aujourd'hui, on est, je crois qu'il y a...
C'est Amilodzic qui a pas voulu faire jouer ces jeunes-là.
Oui, parce qu'ils a estimé pas prêt. Alors qu'on sait que, Basila qui a fait un match cette année, c'était contre Lyon, la victoire. De 1, ça avait été le meilleur joueur dans les notes à la fois de l'équipe chez nous.
Et après, on l'a plus vu.
Après, on l'a plus vu, non.
Le problème, c'est que il y a tellement d'ego entre les deux que tu sais pas si ils font passer le bien du club avant tout ou leur intérêt personnel. C'est-à-dire que quand tu vois Vaïd parler de football en tant qu'entraîneur du FC Nantes, il parle que de lui. Le président Kita, il a tout vu, il connaît tout, il sait tout. Donc on n'a pas l'impression que ces gens sont à un moment ou un autre, pourtant c'est des gens très intelligents, j'ai aucun doute là-dessus, mais sont capables de mettre de côté, je vais même pas dire leur rancœur, mais leur désaccord. C'est pas grave qu'il y ait des désaccords. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord avec la même situation. C'est pas un problème, mais l'intérêt commun, il est quand même le FC Nantes. Et là, ça va au-delà de ça. Et Vaïd, partout où il est passé, il a jamais réussi parce qu'il a une vision des choses qui lui est tellement propre qu'il est pas capable à un moment donné de mettre un peu d'eau dans son vin et de laisser fonctionner un petit peu l'institution et vouloir imposer toujours des choses.
Cette année, puisque depuis son arrivée, il a relancé une cellule de recrutement qui avait été abandonnée lors de l'éviction de René Girard.
Très bien.
À l'hiver 96.
D'accord.
Or, la première cellule a eu des résultats puisque le dernier Diego Carlos était une de leurs trouvailles pour 2 millions d'euros qui est revendu 15 à Séville.
Il y a eu ça, ouais.
Donc aujourd'hui, ils ont remis en place une cellule de recrutement. Donc on espère aussi qu'elle portera ses fruits. Ça, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut un directeur sportif au FC Nantes,
oui,
notamment pour faire l'interface entre le coach et la présidence,
oui,
et puis pour coordonner la formation.
Oui.
Comme disait Budzinski, c'était harmoniser les
contraires.
C'est-à-dire,
parce que ce poste-là, c'est le fils Kita, ce poste-là, non?
Il a un poste de directeur général.
C'est-à-dire qu'il faudrait un troisième mec qui a encore plus d'ego que les deux autres là pour mettre vraiment le club en explosion.
C'est le danger. Là justement, il faut prendre un mec qui travaille à l'ONU, quoi. Non, mais il faut prendre Baikimoun ou un truc comme ça, j'en sais rien, moi, un mec comme ça, c'est obligé.
Très bien.
Je pense qu'il a en foi.
Baikimoun sera repris de Baikimoun.
C'est Kita qui voulait plus de cellules de recrutement et c'est Ali Lodzi qui l'a fait revenir?
Oui. Puisqu'il y a eu un échec à l'époque sur le recrutement de Thomsen et Kassaniklić.
Ah oui.
Et voilà, ça c'était. Et puis,
franchement, dans l'histoire de Kita, on pourrait faire une liste. Il y a quand même des mecs incroyables qui sont passés.
Donc, Valdemar Kita estimait qu'il pouvait faire la
prendre directement,
faire
le recrutement lui-même.
Ouais. Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Bon, très bien. C'est facile de suivre le FC Nantes à Ouest France où il y a des appels de Kita en permanence.
Là, on en a moins. Il est discret depuis l'affaire Emiliano Sala. Malheureusement, on aurait préféré, comme disait Cyril Moine, on aurait préféré ne pas avoir à vivre cette saison, qui était une saison particulière et compliquée
pour tout le monde. C'est vrai qu'on est obligé de penser à ça quand on passe à la saison.
Pendant la saison, elle s'est arrêtée en janvier.
Parce que d'abord, il y a la mort d'un homme, et puis derrière, il y a eu un vrai coup d'arrêt, quoi. Les garçons, ça devait pas être évident.
Le document qui est sorti sur ça, là, je crois que c'était à Canal+. Non, ouais. Ce document, il est dur pour Kita.
Il l'a pas bien pris, d'ailleurs.
Ouais, l'attitude de Kita, je sais pas si tout ce qui est dit est vrai, mais les accusations contre Kita dans l'affaire, même pas dans l'affaire, mais dans son attitude avec un de ses joueurs, sans parler de ce qui s'est passé après, avec un de ses joueurs qui a toujours tout donné sur le terrain, elle laisse à désirer quand même.
Mais ce qui manquait, c'était l'explication du club, en fait, dans ce documentaire, ouais, qu'on a eu la version club, et lui, il l'exprime mal, c'est qu'il y avait un vrai besoin financier. Donc c'est vrai que c'est tombé sur Emiliano Sala, puisque on pouvait l'expliquer sur son âge, 28 ans, c'était celui qui avait cette valeur marchande-là et qui l'aurait certainement pu après. Et donc il y avait un besoin de 14 millions d'euros à l'époque de trésorerie, puisque le FC Nantes avait beaucoup investi sur le mercato d'hiver, mais aussi dans la revalorisation de joueurs après la bonne saison de Contessao. Et donc il y avait un besoin de récupérer des fonds. Malheureusement, ça s'est fait contre la volonté du joueur.
Merci beaucoup Jean-Marcel d'être venu.
Merci Jean-Marcel, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci
Boudard de Ouest France, donc là où on peut lire toute l'actualité du FC Nantes. Vous pouvez les lire également sur rmcsport.fr grâce à Xavier Grimaud et Pierre-Yves Leroux, nos correspondants. Alors, rendez-vous demain pour Toulouse dans notre Dugatour des clubs.